Eh bien, nous retrouvons cette fois notre seconde invitée, Aurélie Vol. Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir. Oui. Alors, vous allez nous parler de l'UPRO, par exemple. Qu'est-ce que c'est l'UPRO ?
Alors, qu'est-ce que c'est l'UPRO ? L'UPRO, ça veut dire Université Populaire Rurale Ouverte. Donc, c'est une association que je pense pas mal d'entre vous connaissent maintenant. Qui organise des cours, des ateliers, des rencontres variées et diverses et qui ont pour fil commun, on va dire, ou fil conducteur, l'éducation populaire.
Oui, il y a beaucoup d'activités qui sont proposées, diverses et variées. Vous pourriez en citer quelques-unes.
Oui, alors il y a des cours et des ateliers dans, on va dire, trois domaines principaux. Que sont les langues vivantes, donc anglais, italien, arabe, espagnol, l'informatique, avec des ateliers aussi qui vont du très grand débutant, quand on n'a jamais touché un ordinateur et qu'on ne sait pas ce que c'est que la souris, jusqu'à des choses plus poussées, on va dire, comme la création de sites internet, ou passer sous Linux, voilà des choses que je pourrais détailler peut-être un petit peu par la suite. Et le troisième axe, c'est l'agroécologie, donc c'est aussi assez varié, puisque ça va de quelle alimentation aujourd'hui jusqu'à la pratique, la cuisine végétarienne par exemple, la construction de murs en pierre sèche, la connaissance des plantes médicinales, etc. Et puis après, il y a un ensemble de rencontres et de débats qu'on essaye d'organiser aussi sur des thèmes ou d'actualité ou de culture générale qui sont ouverts à tous et qui ont pour but d'échanger et de partager des savoirs, quels qu'ils soient.
Alors tout ça a un coût quand même, c'est en fonction de ce qu'on choisit. Il y a une adhésion, comment ça
Alors,
se passe ?
Alors, il y a une adhésion qui est individuelle ou famille, qui s'élève à 11 euros dans un cas et à 16 dans l'autre, pour l'année scolaire. Et puis ensuite, alors les modules et ateliers ont un coût qui est calculé en fonction de leur durée. C'est calculé en moyenne sur 5,80 euros de l'heure. Donc on essaye d'avoir des tarifs qui restent accessibles par rapport à ce que peut coûter un cours particulier. Et puis tout ce qui est rencontre, on va dire, débat est gratuit. Voilà. Ensuite, on a des programmes un peu spécifiques, on va dire. Donc, en dehors de ça, on a, par exemple, un programme qui est dédié aux agriculteurs dans le domaine informatique. Ça, c'est un projet qu'on mène depuis 2010 maintenant. On en est à la troisième année et qui consiste à donner des formations en informatique aux agriculteurs, mais chez eux. Donc, c'est complètement adapté, on va dire, aussi à leur exploitation, à leur domaine d'activité, puisque, l'agriculture, c'est vaste, ça va de l'élevage en passant par la vente de fruits et légumes ou autres. Donc, on essaye d'adapter les outils à la demande.
C'est vrai que ça devient indispensable maintenant pour les agriculteurs, les éleveurs. Ils sont obligés de se mettre à l'informatique.
Ils ont beaucoup, effectivement, beaucoup de difficultés parfois à répondre aux exigences qu'ils peuvent avoir justement en termes de gestion de leur exploitation. Donc c'est un projet qui est mené en collaboration avec le Pays d'Innois, qui est un projet leader développement rural, projet européen.
Donc c'est important, j'imagine que beaucoup d'agriculteurs sont heureux d'avoir cette possibilité.
C'est vrai que c'est un projet qui a eu beaucoup de succès, parce que d'autant plus que c'est complètement gratuit pour les bénéficiaires. Donc c'est complètement pris en charge. Ça fait maintenant donc la troisième année qu'on travaille là-dessus. On commence à avoir fait un petit peu le tour de nos agriculteurs du pays d'Ignois. Mais il reste de la place. Donc s'il y a des agriculteurs ou agricultrices qui nous écoutent, ils n'hésitent pas à nous contacter parce qu'on a encore donc toute l'année 2013 pour une quatrième année qui va être mise en place pour accueillir ces formations. Et d'ailleurs aussi, je le signale, c'est de la formation et de la production d'outils pour la gestion agricole. Donc, par exemple, il y a des outils de gestion de parcelles, il y a des outils de gestion de troupeaux, il y a des outils pour la vente directe qui sont complètement adaptables et gratuits. Donc, on produit en même temps, on va dire, des programmes adaptés pour eux et il y aura une présentation de ces programmes qui ont été faits donc depuis le départ, qui aura lieu le jeudi 20 décembre au centre des Michel. C'est à 14h30, donc c'est complètement ouvert. Hein. Il y aura à la fois des agriculteurs qui ont participé à ces formations ou qui sont intéressés, des responsables un peu du monde agricole à qui on va présenter le travail que l'on a fait. Pendant cette année particulièrement où on a systématisé les outils qui ont été construits, mais aussi depuis le départ.
Très bien.
Ça c'est donc une action spécifique de l'UPRO en dehors de notre champ traditionnel grand public, on va dire. Et on a aussi une convention avec Alotra, qui est une structure qui gère à Digne l'aire d'accueil des gens du voyage sur le quartier des Isnards et qui était une convention qui prévoit des animations au sein du quartier. Et je pensais, suite à l'invitation de notre ami d'Amnesty International, justement, peut-être, on est en train de travailler pour que dans l'année 2013, cette convention, elle prenne la forme d'un accompagnement des enfants du quartier sur des activités, on va dire, en dehors de l'école, mais qui sont liées à l'éducation populaire. C'est-à-dire comment on peut ouvrir aussi et apprendre autrement en fréquentant des expositions, en allant voir des films, en accompagnant des enfants sur... par exemple, la visite d'un artisan ou d'un commerçant. Donc, je pensais que ce serait peut-être une idée intéressante, parce que c'est aussi faire éducation populaire que d'ouvrir des enfants à qu'est-ce que c'est qu'Amnesty International, d'autant plus qu'il y aura une partie de l'exposition sur les Roms. Donc, je pense que ça pourrait être une idée qu'on va rapidement travailler, puisque c'est la semaine prochaine.
Oui, c'est vraiment une très très bonne idée, justement par rapport, je vais vous redonner le micro Régis, par rapport à Amnesty International, vous intervenez dans les écoles?
Oui, 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 oui. Récemment, puisque c'était jeudi dernier, deux de mes collègues sont allés au lycée d'Avinel à la demande d'un professeur de français pour parler de problèmes de torture et d'esclavage.
D'accord.
Voilà, et nous intervenons aussi, nous pouvons aussi intervenir en primaire, puisqu'on a l'habilitation de l'éducation nationale. Et puis, on coédite énormément d'albums pour enfants et adolescents qui traitent de problèmes de droits humains.
Oui, parce qu'on a parlé, on était dans la semaine aussi des droits de l'enfant, donc c'est aussi lié avec Amnesty, ça peut...
Voilà, tout à fait. D'ailleurs, le 12 décembre, j'ai oublié de vous en parler, mais nous présentons tous nos albums à l'UFM, donc aux futurs enseignants des écoles maternelles et primaires. Voilà, et donc c'est un moyen de faire connaître des livres qui vont parler justement de ces problèmes, de le travail des enfants, la faim dans le monde, le droit au logement... la liberté d'expression.
Donc ce sont des livres qui sont faits pas sous forme de bande dessinée.
Il y a de tout. Il y a beaucoup d'albums pour enfants. Hein. Mm-hmm. Il y a des bandes dessinées aussi. Et puis il y a les petits romans pour des adolescents. Jusqu'à des bandes dessinées aussi pour adultes. Hein, puisqu'on a fait deux bandes dessinées sur les violences faites aux femmes. Donc, c'est deux bandes dessinées qui ont été réalisées par de nombreux auteurs, un collectif en fait d'auteurs de bandes dessinées qui étaient intéressés par ce sujet de ces violences faites aux femmes dont on a parlé hier. Hein, parce que ça reste toujours dramatique, puisque une femme meurt tous les trois jours en France suite à ces violences. Hein. Donc voilà, c'est très varié les albums qu'on co-édite. Mais ce sont des supports très intéressants pour l'éducation populaire.
Voilà, merci. Merci aussi Aurélie pour avoir accepté d'être coupée dans le... Enfin coupée, c'est un complément d'information. Donc on va revenir à l'UPRO, mais c'est très important.
Mais je pense que c'est au contraire, je pense que c'est aussi l'interaction entre nos différentes associations sur le territoire du Pays d'Ignois qu'on peut faire des choses... aussi plus intéressante ensemble. Et c'est aussi ça, l'éducation populaire. Je pense que Régis parlait des interventions dans les écoles et dans les établissements scolaires. On parle beaucoup de refonder l'école. Et je crois qu'aussi, c'est cette place et cette interaction entre l'éducation formelle, entre guillemets, et non formelle, qui peut aussi faire avancer les choses. Pas plus tard que ce week-end, j'étais donc à Valence, dans la Drôme, où se tenait le colloque annuel de l'Association des universités populaires de France. Il se trouve que j'assume depuis un an les fonctions de secrétaire nationale de cette association, donc qui est une association qui fédère finalement des universités populaires qui veulent bien y adhérer sur l'ensemble du territoire français. Et justement, le thème du colloque cette année, c'était jeunesse et éducation populaire. Et on a vu de nombreux exemples en fait d'autres universités populaires qui travaillent avec l'éducation nationale sur certains sujets. Donc c'est vrai, nous jusqu'à présent on l'a peu fait, mais c'est, je crois, tout à fait intéressant, et ça fait partie de l'éducation populaire aussi que d'essayer de comprendre, c'est même le cœur, dans quel monde nous vivons, et l'action d'Amnesty, l'action d'autres associations est tout à fait importante pour que les jeunes prennent conscience justement de différents aspects du monde actuel.
On va revenir à UPRO. L'UPRO, donc, c'est ça, il y a beaucoup de choses, et notamment les mardis itinérants.
Alors voilà, les mardis itinérants de la culture générale, on les a baptisés comme ça, mais ce sont des rencontres en fait qui ont lieu à peu près une fois par mois. Un mardi à 18h dans une des communes du Pays d'Ignois. Ça fait partie de ces activités qui sont complètement entrées libres, gratuites. Et donc le prochain mardi itinérant aura lieu le 11 décembre. À la mairie du Chaffaut. Alors pourquoi le Chaffaut cette fois-ci ? Parce que alors le thème que nous allons traiter, c'est le centre de séjour surveillé qui existait pendant la Seconde Guerre mondiale au Chaffaut, entre 1940 et 1941. On a découvert un petit peu incidemment que l'existence de ce centre sur une commune tout à fait proche de Digne. On a découvert qu'il y en a eu 16 dans le département des Basses-Alpes à l'époque. Et on était assez surpris de ça, parce qu'on pense toujours que les camps, les centres ou les camps de concentration, c'était ailleurs.
Et il y en a eu ici, alors.
Et il y en a eu ici. Alors, il faut distinguer un petit peu différents types de centres. Il y avait des annexes du camp des Milles dans le département, qui est assez connu, donc le camp des Milles sur Aix, qui était essentiellement sur Manosque, Volx, pardon, Château Arnoux, la citadelle de Sisteron aussi, qui a eu différents types d'internés, on va dire. Et puis il y avait ces centres comme celui de celui du Chaffaut, qui était sur le site de Carmejane, hein, du lycée actuel, du lycée agricole. Et puis, il y en a eu aussi à la Bégude, à Bradas, donc pour des vallées proches. Là, on y enfermait ce qu'on appelle les, ce qu'ils appelaient à l'époque les indésirables. Donc, dans, c'est les indésirables, c'était qui ? C'était globalement des militants du Parti communiste, qui a donc été interdit, hein, on le sait, pendant la Seconde Guerre mondiale, et des syndicalistes ou assimilés, communistes. Ils venaient essentiellement des départements du Var, des Alpes-Maritimes, et puis aussi, pour certains, ils venaient de la zone occupée, donc de la zone nord, et c'était souvent des appelés qu'on enfermait en raison de leur militance politique. Donc prisonniers politiques, là voilà. Encore, on peut faire un lien.
Il y a un lien direct, ah. Ouais.
Et puis il y avait les centres. Alors ces centres, ils ont aussi abrité, dans le cas d'Aimé et d'Oraison, des réfugiés espagnols républicains. Ils ont abrité aussi des étrangers qui étaient réfugiés politiques en France à l'époque, au moment de la déclaration de guerre en 1939, c'est-à-dire des réfugiés autrichiens, allemands, qui étaient ça c'était le cas de Oraison, si je me trompe pas, puis les camps annexes des Milles aussi, évidemment, il y avait beaucoup de réfugiés politiques en fait qu'on a enfermés, parce que bien qu'ils étaient réfugiés politiques, donc opposés au troisième Reich, ils étaient assimilés ici au moment de la déclaration de guerre, ils étaient allemands. Point final, ils faisaient partie de l'ennemi, quoi. Donc ils ont été aussi pour la plupart arrêtés, enfermés.
Et donc, il y aura une conférence.
Donc voilà, le mardi itinérant, on a repris un petit peu, on a fait des recherches dans les archives pour présenter celui donc qui était au Chaffaut, qui étaient les gens, comment, qu'est-ce qu'ils sont devenus quand le camp fermé. Parce qu'en fait, il y avait des camps qui ouvraient, des camps qui fermaient. Les gens étaient souvent ensuite, alors, ou libérés, si on estimait qu'ils avaient corrigé leur opinion, ou alors transférés dans d'autres camps qui étaient des camps beaucoup plus durs, qui étaient des camps disciplinaires, alors qu'au Chaffaut, c'était des gens qui souvent étaient employés dans la journée, ils travaillaient en fait souvent pour l'État. Ils pouvaient être aussi mis à disposition dans des fermes. Le soir, ils rentraient au camp. Mais après, il y avait des types de camps qui étaient disciplinaires, qui étaient beaucoup plus durs et qui étaient dans d'autres régions. Donc certains ont été transférés quand ce camp-là a fermé ailleurs.
Donc là, ça a été une découverte, une enquête qui a été faite auprès des habitants.
Alors on a fait des recherches dans les archives, on a essayé de trouver aussi quelques témoins ou enfants de témoins, parce que ça commence à dater tout ça, on n'a plus beaucoup de témoins vivants. On était assez surpris aussi, et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce mardi itinérant, parce que c'est assez absent de la mémoire collective. Mmh. Il y a finalement, on en a peu connaissance. On a une histoire de la résistance qu'on connaît assez bien dans le secteur, mais ces camps-là, on en parle très peu. Donc on a voulu essayer de comprendre aussi pourquoi. Donc on a fait des recherches dans les archives, on a trouvé pas mal de documents. Et donc on va alterner un petit peu entre les résultats des recherches dans les archives, quelques témoignages, et puis essayer de retracer l'ambiance de l'époque aussi pour permettre de comprendre comment on a pu en arriver là. Et ce qui est intéressant, je crois, à mon sens, c'est que on peut faire des liens avec, avec l'actualité, quoi. Mm-hmm. On peut comprendre pourquoi on arrive à des centres de rétention aussi qui sont très actuels hein, chez nous, comment on traite la question des étrangers qui sont en demande d'asile politique. Et au regard de cette histoire, je crois que c'est pas inintéressant de comprendre les ressorts ce qui fait qu'à un moment donné, on en arrive là, et avec toutes les horreurs que ça constitue, quoi. Mmh.
Bien, eh bien, on va peut-être en rester là, puisque l'heure tourne et qu'il reste 3 minutes. Quelque chose d'important qu'on a oublié de dire, que vous auriez envie de rajouter?
Quelque chose d'important, peut-être si vous êtes intéressé par certaines activités, n'hésitez pas à nous recontacter, même si l'année scolaire est déjà bien entamée. Oui. Donc bien sûr, vous ne pourrez pas vous inscrire en langue parce que ça a démarré, mais il y a des activités qui démarrent tout au long de l'année, des choses plus ponctuelles. On a un module, là, le 30 novembre, sur redécouvrir le safran. Si vous avez envie d'aller passer 2 heures à respirer du safran et à apprendre à le connaître.
Est-ce que ça se passe pas à Saint-Jure, ce ça?
Ah non, ça va se passer le vendredi 30 novembre à Mirabeau, à l'ancienne école. Mmh. Voilà, c'est un petit module qui se passe sur une après-midi.
Très bien. Alors, un numéro de téléphone ou une adresse pour en savoir plus sur l'UPRO, un site, qu'est-ce qui se passe?
Alors, téléphone, c'est 09 51 61 00 89. Si vous nous appelez le matin, en général, vous nous trouvez sans difficulté. Et puis, vous tapez UPRO 04 sous Google, vous tomberez très, très vite sur notre site où il y a l'ensemble de l'information. Voilà.
Très bien. Merci Aurélie Volm et merci Régis Coulanges pour votre participation active sur notre antenne en direct. Et à très, très bientôt.